Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sebastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde! Avant-dernière émission de la saison de Ça tient la route. On termine la semaine prochaine et après ça, ben, comme un petit peu tout le monde, on se permet quelques semaines de congé. En fait, le mot est bien vite dit parce qu'on prépare l'annuel de l'automobile 2022.
C'est ce que j'allais te demander.
Voilà, oui. J'attends tes textes d'ailleurs, Alain. Mais non, ça occupe toujours une partie de notre été, mais là, on va prendre congé de radio. Mais la bonne nouvelle, on est de retour à l'automne. Alors, voilà. Quelque part au mois d'août, on va revenir préparer une autre saison, nouveau sujet. On vous donnera pas toutes les nouveautés tout de suite, ça sera plate. On va vous donner ça à l'automne. Notre invité de la semaine, c'est un certain Alain Mécana qui va être avec nous.
On l'aime beaucoup.
Non, Alain, blague à part, t'as préparé un dossier que j'ai trouvé fort intéressant pour le magazine Protégez-vous.
Oui.
Qui s'appelle Embarquez-vous. Parle-nous un peu de ce que c'est.
Écoute, on sent que le temps est arrivé pour le virage dans le transport. Ben, on en parle à tous les niveaux, hein, des véhicules électriques, que ce soit pour les consommateurs, pour nous, là, qu'on s'achète. Mais ça va très loin. On parle aussi
transport en commun,
d'autobus scolaires,
véhicules lourds,
véhicules commerciaux, camions de livraison, des choses comme ça. Il y a une industrie, il y a un changement, il y a un virage, appelez-le comme vous voulez, ça s'en vient. Dans Protégez-vous, on fait le point sur les véhicules que nous
avons. Bon, ben ça va être en deuxième partie d'émission.
Yes.
SR Routier, tu nous as préparé quoi cette semaine?
Ben, je te paye le bout du spectre parce que j'ai une Mazda MX-5, là, le petit roadster de Mazda qu'on apprécie depuis maintenant 32 ans.
Les plaisirs de l'été.
Exactement, qui est une voiture très estivale, qui est très petite, surtout comparé au véhicule que toi, tu as eu la chance d'essayer, si j'ai bien compris.
Là, j'avais un paquet de choix, parce que là, on est dans la rédaction du livre. Alors, il y a de l'auto au pied carré chez nous, là, parce que bon, il y a beaucoup de modèles qu'il faut essayer. Je vais probablement en prendre deux. J'ai essayé la nouvelle Honda Civic 2022, 11e génération, modèle berline qu'on a essayé parce qu'il y a un hatchback, un modèle à haillons qui s'en vient un petit peu plus tard. Et une SI et une type R, mais ça, on les a pas roulés, ni le hatchback, mais le hatchback est un peu sur le même principe.
Ça a l'air grande, la nouvelle version de la Civic.
Ça l'a un petit peu agrandi, mais tu sais, c'est dans la pure philosophie de Honda. On a amélioré le produit parce qu'on garde à la base les mêmes moteurs, le même châssis. On a resserré les boulons, on a retravaillé ça. Fait que je vais vous parler de ça.
Le changement dans la continuité.
Voilà. Et si j'ai quelques minutes qui me restent, je vais vous parler d'un modèle qui est là cette année, qui ne sera plus là l'année prochaine, qui est une bête. C'est un Dodge Durango Hellcat. 710 chevaux. Un monstre.
Juste ça.
Un vrai monstre. Puis là, j'ai le ID4 en essai. J'ai essayé le Aston Martin DBX. J'en ai. On va s'en garder la semaine prochaine.
Ben oui, c'est ça, la saison.
Exactement, on s'en gardera un petit peu. Début d'émission, évidemment, comme à chaque semaine, tu as des actualités. Tu nous parles de quoi, Alain, cette semaine?
Ben, écoute, on a appris cette semaine que Nissan a dévoilé tous les détails qu'on ne connaît pas encore à propos de son coupé Z le 17 août prochain.
On en connaît déjà un petit peu, quand même.
Exactement. Puis il y a des rumeurs qui circulent aussi, quand même assez nombreuses pour compléter le portrait, même si encore Nissan n'a rien confirmé. Mais on va savoir donc à New York dans à peu près deux mois tout ce qu'il y a à savoir sur ce modèle. Pour ceux qui se demandent à quoi elle va ressembler, si on le sait déjà, ça va ressembler beaucoup à ce qui s'appelait le Z Proto, qui était dévoilé en septembre dernier, qui était un concept. Là.
On le regarde, puis bon, on enlève deux, trois détails, puis c'est un modèle de production, là, on se comprend.
Visuellement, c'est un coupé qui a le droit à une silhouette, je dirais, légèrement plus fluide que la dernière Z qu'on a vue sur la route, qui rappelle peut-être un petit peu plus les premières générations de ce véhicule-là, qui remonte quand même à quelques décennies.
Exact.
Là.
Ben, on a voulu faire un peu un clin d'œil à la 240 ou la Fair Lady, comme on l'appelait au Japon.
Ouais. On ramène pas la marque Datsun pour autant. On n'est pas rendu là.
Non. Quand même.
Ouais. Écoute, on va en fait savoir parce que sous le capot, la rumeur qui circule, c'est qu'on aura droit à un V6 biturbo dont la puissance oscillerait autour des 400 chevaux pour parler 400 chevaux pile.
Ben, en fait, ça serait le moteur du Q60.
Exactement.
Qu'on a déjà sous la main du côté d'Infiniti qu'on va glisser là. Mais moi, je gage un petit 2 qui vont juste pour bien marquer le point. Ils vont peut-être ajouter un petit 25 chevaux dedans, juste pour dire qu'il y en a un peu plus que l'Infiniti.
Moi, ce que j'aime du 400, c'est qu'on pourrait appeler ce modèle-là la 400Z. C'est un beau chiffron.
Voilà.
C'est un beau nom.
Exact.
Parce que, oui, on pourrait aller chercher un peu plus de puissance. Puis, évidemment, c'est du marketing aussi. Il faut voir comment ça va se décider.
Voilà.
Une autre rumeur persistante qui concerne le prix circule beaucoup depuis quelques jours. Il serait question d'un véhicule offert avec très peu d'options. Là, donc, une ou deux versions, peut-être trois versions. Et le prix de départ serait quand même pas très raisonnable, à 35 000 $ US, qui est l'équivalent de 42 000 $ canadiens.
Rappelle-toi la version Z qu'on a offert à 29 998, je pense. Comment ça a bien marché.
Exactement.
Parce qu'on avait un 6-cylindres performant. Bon, oui, le modèle avait quelques années, c'était pas ce qu'il y avait de plus moderne, mais pour quelqu'un qui voulait un modèle sport à prix abordable, c'était dur à battre. Là.
Ben, il faut aller, parce qu'évidemment, on le sait, hein, tout le monde achète des VUS, donc les voitures sportives, même les berlines, tout ça, il y a moins de demandes, donc on essaie du côté des fabricants de rendre ça plus osé.
Exact.
Et un coupé sportif de la trame de la Z plus abordable, il y a une certaine audace là aussi. Donc, ça aurait du sens qu'on essaie ça. Il y aurait une version aussi plus performante avec, entre autres choses, là, des freins Brembo, toute la patente, ce que vous pouvez imaginer, qui irait, elle, coûter un peu plus de 50 000 $ mais ça, bon, ça va être à confirmer en août.
Et on aura peut-être une version Nissimo aussi quelque
part. Ah oui,
dans
ben, sans doute.
Hein?
Ah oui,
sans
absolument.
Doute, sans
oui.
doute. Alors, et peut-être qu'on prépare une décapotable. Écoute, là,
peut-être,
il y a de la possibilité. Quand on pose des questions comme ça, la réponse qu'on a toujours des constructeurs, c'est on ne parle pas de futurs produits. On a eu cette réponse-là des centaines pour pas dire des milliers de fois depuis quelques années. Mais ça se prépare et le 17 août, on saura exactement à quoi on a affaire.
Exactement.
Alors, autre nouvelle.
Ouais, ben écoute, savais-tu, toi, qu'un nombre élevé de conducteurs canadiens, moi je l'ai appris, là, désactive l'aide à la conduite dans leur véhicule?
Je fais partie de ces gens.
parce qu'on le sait, hein, les véhicules modernes sont équipés des systèmes d'aide à la conduite genre. Là, et à chaque fois qu'on parle de nouvelles voitures, on s'approche un petit peu plus de la voiture autonome. Hein, donc, ces systèmes-là, les sonars, radars, lidars, en tout cas, appelez-les comme vous voulez, semble-t-il, en agacent plusieurs à tel point que plus d'un Québécois sur deux dit ne pas utiliser ou utiliser seulement très rarement les fonctions d'aide à la conduite, comme l'avertisseur de changement de voie. Et celui-là, je comprends tellement pourquoi vous le désactivez. En tout cas, moi-même aussi, je fais partie de ces gens-là. Parce que des fois, on fait juste approcher un petit peu d'une ligne pointillée.
Ah non,
puis là, ça vibre ou ça fait bip, bip, bip. Pis t'sais,
ou dans les cas de GM, ça vous envoie une petite vibration dans la fesse.
Oui, ben c'est ça, à travers la rétroaction haptique du siège. C'est quand même assez le fun. Puis dans d'autres cas, ben, on veut changer de voie, on met le clignotant, mais il y a une voiture 300 mètres en arrière, puis le système d'engrenage pense qu'on ne voit pas jusque-là.
Non, donc... puis j'ai eu quelques frousses, pour être honnête, parce que les systèmes sont... Certains sont très intrusifs.
Oui.
Et si une voiture... Moi, en fait, c'est même pas moi qui a coupé. C'est quelqu'un, moi, qui était parti de la droite, c'est-à-dire de la gauche, pour prendre une sortie, probablement qui était à la dernière minute, qui s'est aperçu qu'il sortait là, puis il a comme tassé de deux voies.
Ah oui.
Puis il est comme juste passé devant moi, puis j'ai freiné, littéralement.
Ah oui.
Heureusement, il y avait personne derrière parce que probablement que je me serais fait frapper là. Donc il faut faire attention.
C'est pas parfait. Non, exactement.
Et malheureusement, en tout cas ou heureusement, c'est parce que au Québec, beaucoup d'acheteurs, on aime les voitures bien équipées au Québec. Et les gens achètent d'abord le modèle bien équipé, mais souvent les aides à la conduite électronique arrivent dans quel modèle? Les modèles bien équipés. Alors, ils héritent d'un paquet d'aides à la conduite électronique qu'ils ne veulent pas nécessairement utiliser. Écoute, j'ai un Buick. Ah oui, j'ai un Buick Envision en essai cette semaine. Et en veux-tu une bonne? Si ta ceinture de sécurité n'est pas attachée, le véhicule ne peut pas se mettre en position drive.
Ah oui.
Tu ne peux pas avancer si ta ceinture de sécurité n'est pas attachée. Ça, c'est la première fois.
Ça, c'est
là,
un autre niveau de...
On est passé au niveau 2, là.
Ah, oui, définitivement.
Parce que là, je reculais, parce que mon entrée est en descendant chez moi. Je recule, puis j'ai le vieux réflexe d'un gars qui a appris à conduire, il a passé 40 ans. Je regarde toujours en arrière, même si j'ai une caméra de recul. Ça, moi, il faut que visuellement, je m'assure qu'il n'y a rien. Puis je m'attache généralement après. Fait que là, je me sors reculons, je m'attache, je pèse dessus, rien. Là, j'ai dit, ah, le frein à main est-tu quelque part? Ben non, il est pas là. Puis là, je cherchais la solution pour finalement dire, bon, c'est correct. Je m'attache, puis là, ça fait plic. J'ai dit, oh non, c'est pas vrai. Fait que là, puis là, je l'ai testé voilà. pour le, aller par en avant. Même principe. Alors, ça, non, non, ça devient assez envahissant, là.
Ben, tu dis quelque chose d'intéressant, là, parce que, évidemment, ces informations-là viennent d'un sondage qui a été mené par la Société d'assurance Allstate. Elle donne dans le sondage quelques conseils. Et un de ces conseils-là, c'est bien la technologie, mais il ne faut pas nécessairement se fier aveuglément. La caméra de recul est un bel exemple. C'est utile, bien assurez-vous de bien regarder autour du véhicule.
Il faut faire attention parce qu'il y a des caméras de recul. GM a pallié au problème parce qu'ils ont maintenant une vraie caméra au lieu du rétroviseur qui n'est pas obstruée. Mm-hmm. Mais les véhicules qui sont assez hauts, la caméra de recul ne voit pas très bas. Et si vous avez, moi j'ai des...
Vous pouvez manquer, oui.
J'ai eu un voisin il y a quelques années qui avait ramassé le tricycle de son jeune fils. Puis bien honnêtement, je pense que je serais reculé dessus parce que je le voyais pas avec la caméra de recul. Alors il faut être prudent pour s'assurer qu'on couvre tous les angles, effectivement.
Exactement. Puis écoute, entre autres conseils aussi, puisqu'on y est, on recommande de programmer votre système de navigation ou d'infodivertissement avant de conduire, on le sait, parce que c'est une autre distraction. Tu sais, les écrans tactiles là, sur le tableau de bord, c'est un petit peu comme un téléphone. Fait que si on dit que les téléphones intelligents, c'est une distraction, c'est un peu la même chose, même si c'est
Et dépendamment du constructeur, parce que j'en parlerai tantôt dans le Durango, moi, je fais toujours le même test. J'appelle quelqu'un.
Ouais.
Mon père, ma conjointe, un ami, mais par commande vocale. Et là, on voit les systèmes qui fonctionnent bien ou pas.
C'est très vrai.
Et le Uconnect a eu un 10 sur 10 parce que, honnêtement, j'ai tout fait en parlant là de manière naturelle, là, pas en épilant les mots
En articulant très bien.
En articulant. Non, non, non. Et ça s'est très bien passé. Donc, là, je donne une note. Ça, c'est parfait. D'autres que... On repose la question, on comprend pas, on te donne une adresse, on ne te donne pas de nom. Puis à un moment donné, tu dis, laisse faire, là, ça fonctionnera pas.
Et à cause de ça, c'est étonnant, une personne sur deux désactive ces systèmes-là, donc les systèmes sont pas à point. C'est drôle parce que le dernier conseil qu'Allstate donne, c'est lisez donc le manuel du propriétaire. Je suis comme, mais qui fait ça?
Non, personne. En fait, maintenant, il y a beaucoup de véhicules qui ont même plus de manuel du propriétaire.
Il est souvent dans le système.
C'est dans
oui.
le système. Là, c'est bonne chance d'aller chercher ça. Tu peux aller le consulter, mais là, faut tomber sur le bon mot, la bonne définition.
Exact.
Deux petites nouvelles rapides de mon côté. Les Broncos vont finalement arriver en concession. Parce que là, on a remis ça une fois, deux fois, trois fois et plus. Et là, finalement, on a annoncé cette semaine qu'on a déjà, certains véhicules ont pris la direction des concessionnaires. On dit qu'on a 125 000 commandes de clients pour le Bronco pour le moment. Les premières livraisons vont arriver d'ici quelques jours, nous dit-on. Il y a certaines options, comme Webasto là, qui fait le fameux toit amovible. C'est pas prêt. Ça va être prêt pour l'année modèle 2022. Fait que ceux qui en ont pris un puis qui vont l'avoir en auront pas. Ford a dit qu'ils vont les dédommager. Sauf que c'est un peu plate parce que si t'as pris ça dans tes options puis tu l'as pas.
Ouais.
Ils disent qu'on va offrir des points de récompense Ford Pass, des cadeaux. En tout cas, on va trouver une manière de Tout sauf de l'argent. Ford a refusé de dire c'est à quoi les objectifs de production parce que là, ça va prendre combien de temps pour combler les 125 000 modèles qui manquent. Mm-hmm. Parce qu'on le sait, là, il y a des retards à cause des puces électroniques, il y a des retards de pandémie, les usines fonctionnent pas encore à plein régime. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait être patient là, du côté des gens qui l'ont commandé parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais au moins, la machine a fini par décoller. Là, fait que ça, c'est intéressant.
Ouais.
Puis, autre nouvelle rapide qui vient du côté de Toyota. Toyota a rapproché son objectif de carbone neutre à 2035. On avait fixé ça à 2050 au début.
Oui.
Et on dit que on a regardé les estimés, on a regardé ce qu'on est capable de faire. Et comme on a repris le premier rang du mondial au niveau des constructeurs, on veut prêcher par l'exemple et on a remis ça à 2035. Mais carbone neutre, là, ça veut dire...
Les opérations,
mm-hmm. les usines. Puis on dit qu'on va s'attaquer d'abord et avant tout à la peinture parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile.
C'est vrai, il y a beaucoup d'agents solvants.
Les responsables ont dit qu'il faut repenser le processus complet de production d'automobiles, mais on s'est donné 15 ans pour faire ça du côté de Toyota.
Oui, parce qu'on le voit pas, mais dans la fabrication d'un seul véhicule, il y a plus qu'un baril de pétrole, en fait.
Oh oui,
donc, quand
absolument.
On dit voiture électrique, tout ça, c'est pas réglé pour autant.
Puis on veut optimiser les procédés déjà existants pour les diminuer. Mm-hmm. On veut diminuer l'énergie qu'on prend justement pour la fabrication. des techniques alternatives. Par exemple, on parle de mettre certains endroits des films adhésifs pour remplacer de la peinture, qui fait le même travail, mais qui demande beaucoup moins d'énergie pour le faire. Donc, on va tout revoir, mais on s'est dit qu'on viserait 2035 du côté de Toyota. J'ai hâte de voir ça, parce que 2035, ça vient vite, là. C'est extrêmement rapide. Ah, oui. Là. C'est 14 ans. Là. Alors, ça va être un gros, gros défi du côté de Toyota. Alors voilà, c'était les petites rapides au niveau des nouvelles cette semaine. On prend une petite pause, puis Alain, au retour, tu nous parles de ton texte et de ton article sur les véhicules électriques. Ouais.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Je vous rappelle que si vous voulez écouter le balado « Ça tient la route », c'est facile, vous allez sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple, Google, ici, sur le site du 98.5fm.ca, dans la section « Balado ». Et évidemment, sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine. Donc, on vous invite à venir nous écouter. Vous pouvez faire ça n'importe quand dans la semaine. Et si vous voulez nous écouter, ben, c'est le samedi à 16h, sur les ondes du 98.5. Donc, on est là tous les samedis. Alain, t'as pondu un article que j'ai trouvé fort intéressant dans le Protégez-vous, qui s'appelle tout simplement « Embarquez-vous ».
Ouais.
Parce que effectivement, on le souligne, et les constructeurs, on le voit par les investissements qu'ils font dans le monde électrique depuis déjà 2-3 ans. Mm-hmm. On parle d'un peu plus de 300 milliards à l'échelle de la planète en ce moment. On est en plein virage électrique. Certains trouvent que ça va passer vite. Certains trouvent que ça va trop vite parce qu'ils voudraient garder. Hein? On n'arrive pas jamais à satisfaire personne pleinement dans cette situation-là.
Nous vivons une époque de grands changements.
Voilà. Mais effectivement, la réalité, c'est qu'on a les deux pieds dedans, là.
Ouais,
les
absolument.
Modèles arrivent. Là, évidemment, la pandémie a mis un certain nombre de projets au ralenti. Après ça, il faut ajouter la pénurie de puces électroniques qui n'a pas aidé la cause. Mais malgré tout ça, on n'a pas perdu le momentum du côté des constructeurs. Là.
Non, ben ça avance. Puis effectivement, c'est vrai qu'on peut mêler un paquet d'affaires parce que c'est très vaste, l'électrification du transport.
Ouais.
On se demandait plutôt pourquoi, tu sais, la base de l'idée de l'électrification du transport, c'est dans les pays comme les marchés comme le Québec, le Canada. Le transport est le principal émetteur de gaz à effet de serre, donc c'est une solution si on veut améliorer le bilan climatique.
Et on parle du transport avec un grand T. Là.
Exactement.
Là, on parle les autobus, les camions, on peut même mettre les bateaux là-dedans. Là.
Ah oui,
les
c'est
trains,
vrai, ça s'en vient en plus.
Oui,
tout à fait raison. Puis,
tout le monde est là.
Au niveau du Québec, il y a une stratégie économique, il y a un paquet d'affaires qui se développe, mais il n'y a pas de volonté, puis il n'y a pas de marché. Il y a un marché, mais il n'y a pas de structure pour fabriquer des voitures ici. Mais il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas un jour fabriquer des batteries, des choses comme ça. Mais pour les véhicules, il faut se rabattre évidemment sur les grandes marques. Les grandes marques sont en train de faire une transition. Puis depuis, on l'a vu depuis, ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'il y a des véhicules électriques sur la route. Ça s'est beaucoup amélioré.
Ouais.
Et quand on parle aux gens de l'industrie, ce qu'on réalisait, c'est que 2023-2025, là, puis même on commence maintenant à avoir des véhicules dont le prix est pas bien ben loin d'un véhicule à essence comparable. Mais surtout qu'on peut amortir, même si c'est un petit peu plus cher, avec l'aide gouvernementale à l'achat, ces choses-là, on peut amortir le prix en dedans d'un an et demi, 2 ans dans certains cas. Ce qui est très rapide, ce qui finalement se donne, je veux dire, pour les gens qui tiennent pas à avoir des moteurs à essence nécessairement. Ou,
non, exactement.
C'est que les composants sont moins importants au niveau de la mécanique, ben il n'y a pas de raison de ne pas acheter une voiture électrique si on a besoin d'un véhicule, en fait.
Exactement. Puis le fait que, la recherche s'est développée, le nombre de véhicules a augmenté, mm-hmm. et du coup, l'acquisition des modèles a baissé. Tu sais, un kilowattheure de pile coûtait 1 100 $ il y a 10 ans.
Exact.
On est à 183 ou 187 $ aujourd'hui.
Exactement.
Donc, c'est une grosse différence.
Oui, c'est ça. Puis il y a des fabricants qui ont fait des gros efforts. T'sais, on parle évidemment beaucoup de Tesla parce que c'est la marque connue dans les véhicules électriques, mais General Motors a fait aussi beaucoup d'efforts. Et on va le voir en tout cas beaucoup cet automne avec la nouvelle version de la Bolt et de la Bolt EUV, là, qui est l'espèce de la version plus grosse, dans le fond, de la voiture électrique, dont le prix de détail a été revu à la baisse de façon assez substantielle. Dans l'article du Protégez-vous, j'ai justement comparé une Bolt EV 2022 et une Mazda 3 Sport modèle GS, là, qui est le modèle correct, dans le fond, dans la gamme de la Mazda 3, pour justement faire le calcul, combien ça coûte, c'est quoi le coût annuel en énergie, en électricité ou en essence, entretien, assurance, tout ce genre de choses-là. Et on amortit, on compare sur 1 an, 7 ans, 10 ans. Écoute, l'économie, au bout de 10 ans, c'est 15 000, c'est même un petit peu plus que 15 000 $ si on achète électrique. Donc, on peut sauver, c'est juste le côté rationnel de l'achat. De ce côté-là, a du sens. Il y a des gens qui vont dire, wow, 10 ans, ça peut avoir l'air long, mais ce qu'on voit des premiers véhicules électriques, c'est que les véhicules électriques ont la technologie suffisante pour durer sur 10 ans. Alors, on perd un peu d'efficacité, mais pour les véhicules à essence,
ça vaut la peine.
C'est l'entretien puis tout le reste qui fait la différence.
Et je sais que beaucoup de gens ont une crainte au niveau de la pile, mais les piles, à date, se sont avérées extrêmement durables.
Ouais.
Il y a peu d'entretien à faire. La garantie de base de la majorité des constructeurs, c'est 8 ans ou 160 000 km.
Mm-hmm.
Et beaucoup de gens, bon, c'est sûr que les vieux modèles électriques ne sont pas encore légion sur la route. Mais des gens qui ont, par exemple, une Nissan Leaf de première génération, oui, ils vont avoir un 125 km d'autonomie. Il en reste peut-être 100, là, après toutes ces années-là. Mais le véhicule va toujours très bien. Donc, la crainte est pas là, parce que c'est immensément plus simple qu'un moteur à combustion interne.
Ouais. Au niveau mécanique, effectivement, il y a moins de complications.
Oui,
ça veut pas dire que les véhicules sont parfaits. Hyundai a fait un rappel de Kona. Il y avait
des problèmes à la batterie. Oui, problème d'incendie.
Ça va arriver, effectivement.
C'est arrivé chez Tesla, c'est arrivé chez Kona, c'est arrivé chez Kia, c'est arrivé chez plusieurs constructeurs parce que, effectivement, la réaction chimique au niveau du lithium, c'est extrêmement chaud parce qu'on a choisi le lithium pour une raison très simple. Si vous mettez un bloc de lithium à l'air libre, il brûle.
Mm.
C'est extrêmement réactif, mais c'est cette réaction-là qui fait que l'autonomie est bonne. C'est pour ça qu'on travaille sur des piles solides où il n'y aura pas de réactif aussi, je dirais, nerveux que du lithium.
Exact.
Et il n'y aura pas non plus de métaux rares comme le cobalt ou qui vont faire baisser le prix de la batterie. Donc, on est à travailler là-dessus.
Ça évolue. Puis Tesla, entre autres, travaille sur la fameuse batterie à 1 million de milles là, qui pourrait durer. C'est 1 million, c'est 100 000 km d'autonomie. Pas d'autonomie, pardon, mais de...
Non, de durée de vie.
C'est quand même assez fascinant.
Exact.
Dans le dossier de Protégez-vous, on est un petit peu plus concret quand même. On recommande des véhicules, parce que l'autre truc, c'est ça, c'est qu'il y a des véhicules électriques, il y a des véhicules hybrides branchables qui font quand même assez bien aussi. Et ce qu'on fait quand on fait le calcul, même un petit, par exemple, le RAV4 Prime de Toyota, on en parle beaucoup parce que c'est un véhicule qui est assez populaire. D'ailleurs, il y a une liste d'attente d'un an et demi là, pour se le procurer. Mais ce qu'on voit, c'est que des véhicules comme ça qui font... 3 litres et demi au 100 km pour des véhicules qui sont même assez costauds, c'est tout à fait acceptable aussi pour bien des gens. Ce qu'on réalise, en fait, c'est qu'en étudiant le dossier où on a la situation des voitures électriques et la raison pour laquelle les gens l'achètent ou l'achètent pas, la question de la recharge est très importante aussi.
Oui.
C'est un phénomène de banlieue en ce moment, la voiture électrique, parce que la plupart des gens qui en ont une vont la mettre dans leur garage et vont avoir un chargeur à la maison.
Il faut avoir, en fait, je ne vous dis pas qu'il faut avoir une maison, mais il n'y a pas de système efficace encore. Bon, tu sais, si on prend des villes comme Montréal ou Québec, qu'on reste dans des quartiers où on est dans un deuxième étage de duplex, on a un problème.
C'est pas encore à point. Il y a des gens dans les grandes villes, notamment Montréal, il y a des gens chez Hydro-Québec qui se penchent là-dessus. Il va y avoir des solutions éventuellement. Soyez alerte, il y a des quartiers déjà à Montréal qui ont pas mal installé des structures, des infrastructures de recharge pour justement faciliter la transition. Il va y avoir des espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques pour les gens des quartiers résidentiels, éventuellement.
Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur des recharges par induction, qu'on va pouvoir littéralement avoir des peinturer un endroit sur le au sol.
Ça va
dans
être intéressant quand ça va arriver, effectivement.
Ouais,
ça va être un autre genre de,
moi,
de gadget, effectivement.
Ben, j'ai vu des endroits comme ça en Californie où on est à l'essai. Il y a même des autoroutes par induction. On fait des bouts. Donc, on recharge littéralement en roulant.
Mm-hmm.
Donc, ça permettrait d'éliminer possiblement, là, évidemment, on regarde plus loin en avant, mais tu sais, le jour viendra où peut-être que vous allez simplement emprunter la voie réservée aux véhicules électriques, puis vous allez carrément recharger en roulant.
Il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est sûr que la question de la recharge, la rapidité pardon, de la recharge sur la route, par exemple, est un gros facteur aussi pour bien des gens qui disent, ben moi, je vais pas avoir arrêté une heure quand je suis en route vers Québec, pour une raison ou pour une autre. Pour avoir à faire le plein. Et ça, c'est un gros différenciateur des nouveaux modèles qui sont présentement mis en marché. C'est que souvent, on a la façon que les batteries sont faites, c'est qu'on peut aller de 0 à 80% très rapidement en termes de recharge.
Exact.
Souvent, c'est l'affaire de 20 minutes. Et là, vous avez 80% de batterie. Et en quelques minutes, à peine 5 à 10 minutes, on va chercher 100-150 km d'autonomie pour
on voit, c'est ça. On voit de plus en plus des recharges à 800 volts qui amènent une recharge extrêmement rapide, mais on peut pas le laisser longtemps parce qu'il fait tellement chaud qu'on...
Exact.
L'auto va calciner si on le laisse plus longtemps. Puis, évidemment, les constructeurs ne recommandent pas nécessairement d'utiliser ça sur une base régulière parce que c'est un choc énorme pour les piles.
Ça use aussi la batterie.
Et on use la batterie prématurément si on l'utilise. utilise à outrance. Je dis pas que de temps en temps, mais bon, 800 volts, c'est vraiment, là, il y a de l'énergie dans du 800 volts.
Non, exactement. Ça va vite. Puis, les réseaux, les infrastructures, les bornes publiques, là, tu sais, on peut l'appeler, les réseaux électriques et les autres vont continuer à prendre de l'expansion. Il y a de l'investissement. Oui, et... ça va régler une partie de ce problème-là aussi. Puis en ce moment, au Québec, on est assez choyé par rapport à ça. On n'est pas un des
marchés les plus en retard. On a un bon réseau au Québec. On a un réseau qui s'adapte, évidemment, parce qu'on a commencé beaucoup avec des phases 2 au niveau de la recharge. Mm-hmm. Là, les phases 3, on a mis justement l'emphase sur les phases 3. Mais tu sais, avec les piles solides qui s'en viennent, on parle de temps de recharge qui vont être autour de 20 minutes pour une pleine charge. Puis on dit que c'est des piles qui vont pouvoir prendre des charges solides pendant des années. Donc, on va pouvoir charger à haute tension du phase 3 régulièrement parce que, justement, la structure même de la pile. Donc, la technologie, comme tout le reste, va évoluer là-dedans.
Ouais, ben c'est exactement ça. Puis, dans l'ensemble, c'est un petit peu une situation où les véhicules, les générations actuelles, les véhicules sont quand même tout à fait acceptables en termes de véhicules qu'on peut acheter. La prochaine génération va être pas mal excitante aussi. Et ça va continuer d'évoluer à partir de là. Les modèles actuels, là, il y a du retard dans la mise en marché à cause des pénuries de composants à gauche et à droite, mais tranquillement, le marché est en train de transitionner. Souvent, beaucoup de gens vont dire « ben moi, mon prochain véhicule ne sera plus à essence ». Et je pense qu'on est rendu là à peu près dans le cycle consommateur. Évidemment, c'est une question de production. Est-ce qu'on va avoir des véhicules suffisamment nombreux pour cette demande-là? On est chanceux, encore une fois, au Québec, parce que la façon que le marché est fait, je ne peux pas dire ça exactement, mais avec l'aide gouvernementale et tout ça, la plupart des fabricants vont privilégier des marchés comme le Québec, Colombie-Britannique, où l'aide à l'achat du gouvernement facilite la vente. Donc, plus de disponibilité, il faut en profiter. Il y a des modèles qui s'en viennent. Là, on recommande des modèles dans le Protégez-vous qui existaient, qui étaient déjà en marché ce printemps, donc on connaissait, mais il y en a des nouveaux qui s'en viennent. Le Volkswagen ID4 est un bel exemple de véhicule qui risque de tourner bien des têtes.
Absolument.
Ça va se diversifier. La Mach-E aussi chez Ford, là, la fameuse Mustang électrique.
Puis l'ID4, on va en parler la semaine prochaine. Je l'ai à l'essai cette semaine.
Voilà, donc il y a vraiment... Le marché se met en place tranquillement, donc on imagine que la transition va se faire. On le sait, au Québec, à 2035, on ne veut plus vendre de véhicules neufs électriques. À essence. Donc, strictement virage électrique. À chaque fois qu'on parle de ça, quelqu'un va dire « Ouais, mais il y a aussi l'hydrogène qui s'en vient. » Ça va être une autre affaire. On va s'en dire qu'on s'en reparlera dans 10 ans.
On parle de carburant alternatif. Porsche travaille là-dessus.
Ça va se diversifier beaucoup, ouais, exactement.
Il va y avoir plus qu'une solution. Pour le moment, c'est les véhicules à batterie électrique qui ont pris un net avantage par rapport aux autres technologies. Mais tu parles d'hydrogène. L'hydrogène est valorisé pour les transports, les longs courriers, les transports lourds.
Les camions lourds, les trains.
Parce que la quantité de batterie nécessaire pour faire des transports lourds à charge est immense. Mm-hmm. Et on se demande si c'est une technologie qui vaut la peine. Mais en hydrogène, on produit zéro pollution. On change les bonbonnes d'essence.
Dans que l'hydrogène produit à partir de sources renouvelables.
À partir de sources renouvelables. Ouais. Mais puis on dit que des carburants alternatifs peuvent réduire jusqu'à 90% les émissions polluantes. Donc, il va y avoir toutes sortes de solutions. Il ne faut pas penser que c'est une solution unique. Mais c'est intéressant parce que on est dedans. Là. On est en plein dedans. Et il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente du côté du marché.
Non, exact.
Je pense qu'on va rester à l'affût parce qu'on va risquer, on va parler de ça un peu plus souvent là, dans les temps qui viennent.
Il y a un point c'est sûr que la conversation évolue aussi. Tu sais, on parlait avant de la pollution produite par la production des véhicules électriques. On en a parlé plus tôt dans la balado cette année. Là, les batteries au lithium peuvent être recyclées à peu près au complet.
Ouais. On avait parlé aux gens de lithium.
Exactement. Je pense que 95 ou 98% des composants des batteries sont recyclés, peuvent être ensuite. Et il y a des
réutilisés dans d'autres batteries.
Exactement.
C'est ça, la beauté.
Puis, tu sais, l'Europe, et probablement que le Canada va suivre, l'Europe a des standards dont on veut qu'en 2030, 60% des batteries soient recyclées. Donc, évidemment, tout ça le bilan va beaucoup s'améliorer assez rapidement. Donc, les choses se mettent en place pour les voitures électriques en ce moment. Donc, si vous magasinez un véhicule, il faut absolument considérer cette option-là, même si c'est pas votre priorité. Ça devrait faire partie des options de magasinage.
Bien, merci Alain. C'était fort intéressant, puis on va suivre ça. Nous, on va à une deuxième pause, puis après, on revient avec nos essais routiers de la semaine.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Alors, dernière portion d'émission, c'est celle de nos essais routiers, évidemment. Alain, tu nous as parlé en début d'émission que tu allais essayer quoi déjà?
Un Mazda MX-5.
Ah, les plaisirs de l'été, effectivement. Ouais. 32 ans déjà.
Ben oui, écoute.
Tabarnouche, hein, 90, ben oui.
Ce véhicule qu'on appelait à une autre époque la Miata.
Oui, que j'appelle encore la Miata fois sur deux.
C'est pas mal plus facile et plus le fun que dire MX-5.
Oui, l'alpha numérique, c'est pas très sexy. Ouais. Hein.
Ben, cela dit, il y a beaucoup de bien à dire de ce Roadster-là, parce que c'est un Roadster et c'est peut-être c'est le Roadster le plus abordable et un des plus excitants sur la route. Il y a deux versions. Version de base à toit souple, un prix de détail qui démarre à 33 200 $ environ. Et pour le prix, effectivement, on en a quand même assez pour son argent, même si c'est un très petit véhicule.
Et c'est une belle simplicité. Tu sais, quand on parle d'un véhicule pas compliqué, là,
ouais.
Ça, c'est un véhicule pas compliqué. Bon.
Il y a de la simplicité volontaire et involontaire dans ce modèle-là, j'ai l'impression quand même.
Oui.
Parce qu'effectivement, c'est un véhicule qui est axé sur la conduite, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un véhicule qui a pris quelques rides, mais quand on aime conduire, quand on veut juste se déplacer, c'est un véhicule, c'est pas apparent qu'il y a
et quand t'as une bonne recette au départ, mm-hmm. Tu sais, chez Mazda, on n'a jamais cherché à modifier cette recette-là.
On l'a pas dénaturé, ce
véhicule. On l'a jamais dénaturé. Ouais. Ça a toujours été un 4 cylindres. Oui, la puissance augmentait un peu. Oui, le poids augmentait parce que la sécurité inhérente dans les véhicules a augmenté. Il faut ajouter de l'insonorisant, il faut acheter du matériel. Bon, à un moment donné, le poids y passe. Mais on avait fait un ménage, 2015 ou 16, de la dernière génération. On était revenu à des bases un peu plus propres.
Oui, parce qu'on avait une Miata Turbo, à un moment donné, il y avait des affaires, on avait essayé des choses.
Cette nouvelle génération, en tout cas la dernière, est à mon avis une des plus réussies, des plus intéressantes. Oui. Et ça demeure du bonheur à 100%.
En version à boîte manuelle à 6 rapports, là, c'est un véhicule qui est très entraînant, qui est le fun à conduire, même si c'est pas une bête de puissance. 181 chevaux pour le 4 cylindres, ce qui est correct. Ce qui est un peu moins apparent, c'est que le couple est moins fort. 151 livres-pieds, c'est... La nuance entre ta puissance et le couple.
En fait, c'est que ta puissance arrive à plus haut régime.
Exactement. Ce qui fait que c'est pas une bombe d'accélération.
Non.
C'est correct.
Mais c'est un véhicule agréable à rouler à 100 km/h. Tu sais, il y a des véhicules qu'en bas de 150 km/h, tu as l'impression que tu fais du surplace. Alors que lui, parce que c'est petit, parce que on est à ras les pâquerettes, là, on est assis par terre là, dans
c'est
ça.
Assis bas, oui.
On sent toute la route, on sent la communication, on sent la dynamique de conduite. Tu sais, on est en communion avec le véhicule. Puis ça, c'est le fun.
Ben c'est une petite voiture qui a un empattement, une voie assez large et longue là pour les dimensions de la caisse, ce qui fait que la voiture est assise, hein. Ben puis on est assis dedans assez bas aussi, donc centre de gravité assez bas. Et ça donne un comportement qui rappelle, et c'est toujours un cliché hein, quand on parle de ces voitures-là, mais qui rappelle un petit peu un go-kart, la façon qu'elle se comporte, prévisible. La direction a une bonne fermeté sans être complètement déconnecté. On sent la route. Et en même temps, c'est pas, tu sais, il y a des voitures qui sont extrêmement vagues. Il n'y a pas de ça ici. C'est vraiment une voiture axée sur la conduite, puis ça paraît. Parlons rapidement de la consommation, parce que c'est quand même assez intéressant. Sur l'autoroute, on peut descendre un petit peu plus de 6 litres au 100 km quand on fait beaucoup d'autoroute, évidemment. Ce qui moi, ça m'a étonné parce que c'est une voiture, tu sais, qui elle résonne, le bruit, on l'entend, on change de rapport. C'est ce rapport très serré. Quand on veut accélérer, évidemment, on rétrograde, puis la cylindrée, elle tourne assez élevée. Donc, dans le contexte, je trouvais que c'est une consommation assez étonnante, très raisonnable. Naturellement, petite voiture se traduit aussi par petit habitacle, et dans ce cas-ci, ben les limites sont rapidement atteintes de ce côté-là. Les deux places sont très étroites. Dégagement pour la tête et les genoux est extrêmement limité, si j'oserais quasiment dire inexistant dans certains, en tout cas, à certains niveaux.
La valise, là, il rentre un sac pour le week-end.
J'oserais dire un sac de hockey, mais c'est pas vrai, parce que je peux jouer au hockey depuis un bout. Mon sac de soccer rentre, qui est un sac de coach, donc il est quand même assez gros. Je pense que chez Mazda, l'objectif, c'est de rentrer un ou deux sacs de golf à une autre époque. Puis là, je joue pas au golf, donc je peux pas vous le dire.
Tu peux rentrer avec bâton, pas trop long.
Je pense que des bâtons télescopiques seraient recommandés. Ouais, c'est ça. Donc, pas vraiment de rangement. Les portes gobelets sont dans la console, derrière le coude droit. C'est vraiment pas commode. Cela dit, il y a des avantages d'avoir un petit habitacle. Alors, entre autres choses, le toit s'opère d'une seule main en quelques secondes seulement.
Ah oui, ça c'est magique.
Ça c'est pratique, tu sais, au feu rouge, là, si la pluie tombe, ou en tout cas, peu importe, on peut rapidement enlever ou remettre le toit. Je veux dire capoter ou décapoter, mais c'est des drôles de verbes. Toutes les commandes sont à portée de main, même celles, et surtout en fait celles du système Mazda Connect, le système d'infodivertissement de Mazda, qui se trouve sous la main droite derrière le levier de transmission. Parlant de ce système, c'est à mon avis, c'est un peu plate, c'est vraiment le signe le plus apparent du vieillissement de ce modèle-là. C'est vraiment la... Je pense que c'est deux générations en retard sur ce qu'on voit dans les Mazda 3 en ce moment. Donc, on aurait besoin peut-être de rafraîchir un peu ce composant-là pour le rendre au
on
bout du
jour. On a commencé
du
côté de Mazda aux États-Unis, by the way. Hein? On a un nouvel écran qui va arriver chez nous dans les modèles 2022 qu'on a du côté des États-Unis depuis 2021. Donc, logiquement, si on fait le tour des modèles, on devrait, dans la prochaine année modèle, avoir ce nouvel écran-là qui est plus... qui est tactile, qui est plus convivial, plus
ouais,
facile
plus,
à utiliser.
Il y a plus, en anglais, on dit de real estate, je trouve que c'est une belle expression. Il y a plus d'écran d'affichage pour exact. L'espace utilisé. Donc, ça va être nécessaire parce que c'est vraiment... bon, évidemment, on parlera pas d'ergonomie, là, mais c'est la principale lacune de ce véhicule-là, c'est qu'on sent quelques rides à certains endroits, puis ce système-là est la ride la plus profonde. Sinon, écoute, une voiture pour conduire pas chère dans les circonstances... c'est vraiment un véhicule absolument à essayer si c'est quelque chose que vous voulez. Voiture décapotable, hein?
Il y en a plus gros, il y en a plus gros. L'été, c'est un vrai plaisir. Là. Quand il fait beau, là, il n'y a pas grand-chose de plus agréable que ça quand on aime rouler. On reste dans l'abordable parce que j'ai essayé la nouvelle Honda Civic.
Oui.
10e génération est arrivée en 2016, donc 2022, c'est la 11e génération de Honda Civic. La bonne nouvelle, c'est que les prix demeurent assez réalistes. T'sais, on est habitué d'avoir des petits VUS grands comme un placard à balai à 30 000. Une Civic de base, ça va commencer en 2022 à 24 465 $. Pour le modèle LX avec le moteur 2 litres là, qui fait 158 chevaux, parce qu'au niveau moteur, on n'a rien changé. T'as le moteur 2 litres, t'as le moteur 1.5, qui est le 1.5 turbo, qui est le moteur dans les versions plus haut de gamme. Nous, on nous avait mis à l'essai avec un modèle Touring, donc bien équipé à 30 265 $, mais là, t'as pas mal tout. Là. Il y a l'électronique qu'on a ajoutée. Là. Même dans les modèles de base, on a ajouté de l'électronique cette année. Ça, c'est assez nouveau. Le modèle LX, il n'y a plus de clé. C'est un démarreur à boutons.
Ah bon?
On a les blind spot monitoring, là, les fameux systèmes de détecteurs d'angle mort. On a aussi le démarreur à distance. On parle de LX là, de base.
Ben
là.
Oui.
Donc, il y a quand même des choses qui sont rajoutées. Bon, l'écran fait 7 pouces, c'est le petit écran. On a un écran plus grand, on a un 10 pouces dans les modèles Touring, comme on avait. Puis, nouvel écran, on a remis des boutons, on a arrêté les espèces d'effleurements de touches.
Ah oui, mais c'était atroche chez Honda pendant le temps. Oui, oui. Il y avait deux écrans tactiles, un par-dessus l'autre. Là,
l'écran est central, bien fait, pas compliqué à utiliser. Puis, si vous allez dans des modèles entre les deux, comme un X, on est à 26 765, puis à 27 865 pour le modèle Sport. Donc, je dirais qu'on est revenu à des valeurs plus simplistes pour la nouvelle génération, parce que on avait des lignes un peu torturées, la 10e génération, qui n'était pas pour plaire à tous. Les gens disaient, ouf.
Il y avait quelque chose d'un peu futuriste.
C'était un peu
là,
funky.
Ouais.
On va la remarquer moins. Dans le centre d'achat, vous verrez plus de loin. Là, elle risque de se fondre au décor un peu. Mais par contre, c'est des lignes qui vont probablement plaire à un plus large éventail d'acheteurs. Je pense qu'on a visé ce côté-là. Encore un petit peu plus grand. Pas énormément, parce que le châssis est le même. On a resserré les boulons au niveau du châssis. Très silencieux, si on l'a amélioré. On a toujours le choix d'avoir une boîte manuelle ou une boîte CVT. On a amélioré la boîte CVT. Je ne suis pas un fan de boîte CVT, je l'ai répété à maintes reprises, mais c'est pas la boîte qu'avait Nissan. Honda a une boîte qui répond mieux. Malheureusement, dans les moteurs, le moteur 1.5, il y a uniquement une boîte CVT. Donc, le modèle Touring, vous ne pouvez pas l'avoir en modèle manuel.
Ah.
Par contre, on va offrir un petit peu plus tard cette année un modèle à haillons. Et on dit que le modèle à haillons, la boîte manuelle va être disponible dans toutes les versions. Et dans les modèles SI et les modèles type R, à ce moment-là, il va uniquement avoir des boîtes manuelles à 6 rapports. Ces modèles-là viendront pas. J'aurais bien voulu faire un modèle sport comme boîte CVT.
C'est vrai que si CVT, ça aurait été assez spécial.
Je pense
merci.
Que les gens qui achètent une SI ou une R, c'est des enthousiastes. Donc, ces gens-là vont aller voir naturellement du côté des boîtes manuelles. Ce qu'il y a d'intéressant... j'ai trouvé l'intérieur bien fait. L'intérieur a été bien conçu, bien construit. C'est vaste, là.
Elle a l'air grande.
Oui. C'est pas grand comme l'accord, mais c'est grand comme une accorde, il n'y a pas si longtemps que ça. Là.
Ouais.
Donc, on a beaucoup de place. Et encore une fois, le prix est intéressant parce que à 25 000 et des prunes, si vous n'avez pas besoin d'un VUS, vous avez quelque chose de vraiment bien. Nous, on avait un système audio Bose qui est en option,
en fait,
qui vient dans le modèle Touring, 12 haut-parleurs. Donc, une qualité de son qui est très bonne. Je l'ai dit tantôt, on a rajouté du matériel de sécurité. Comme
ouais.
le Touring, par exemple. Bon, il y a un système automatique de freinage à basse vitesse, trafic transversal et à l'arrière, détecteur de trafic transversal à l'arrière, les stationnements, les senseurs à l'avant et à l'arrière.
Ah oui.
Donc, c'est de l'équipement qu'on voyait plus dans des modèles de luxe il y a quelques années. Puis il y a même le Apple CarPlay Android Auto sans fil, chargeur sans fil. Donc, on sait aussi, là, d'ailleurs, dans ma Aston Martin de 245 000 $ il n'y avait pas de chargeur sans fil, mesdames, messieurs.
Ouais.
Et l'écran n'était pas tactile. Alors ça, on en reparlera la semaine prochaine, mais ça, j'ai été un petit peu déçu de ça. Et donc, finalement, c'est la voiture la plus vendue au Canada et on fait beaucoup d'efforts chez Honda pour que ça reste la situation parce que ça demeure, malgré tout, un bon vendeur. Donc ça, c'est intéressant. Et en deux minutes, je vais vous parler du Dodge Durango L4.
Ouais.
Parce que le L4, on le met à toutes les sauces. Il y a probablement rien que Fiat 500 qui n'a pas un L4 dedans. Là, mais,
ça aurait été bizarre.
Ça aurait été, ben écoute, j'en parle pas trop fort. Il y a quelqu'un qui va l'idée, va le prendre. Puis va, non, ça rentre pas. Là. Il faudrait. En fait, ça s'est fait en Europe, mais ça a été fait à la main. Là. Ça a été,
mais un Durango de 700 chevaux, ça doit être dangereux. Ça, je peux pas croire.
Ben c'est très rapide. Ça, c'est une question. Ça fait du 17,5 litres au 100 sans effort. Là.
Ah oui,
sans effort,
ça,
parce que moi, j'ai juste fait de la proximité durant ma semaine. J'ai pas eu à me déplacer loin. J'ai fait mes commissions, mon train-train quotidien, 427 km. Mon réservoir est à sec, sec, sec. Et 93 litres dans un réservoir et 1,57 $ pour le
super. Ouais, ça, c'est
super,
hein, c'est ça.
Faites le calcul, ça vous donne une petite idée. Ça m'a coûté 124 $ d'essence pour remplir tout ça. Alors, donc, faut être motivé, là. Puis c'est 126 500 $ hein.
Pour un Durango
2010. Parce qu'on s'entend que depuis 2010, il y a à peu près rien qui a été fait sur ce modèle-là. Et ça s'est vendu. Parce qu'on devait en faire 2000. On les a vendus en criant lapin. On en a rajouté. Chrysler n'a pas dit combien, mais on en a rajouté pour combler la demande, parce qu'il y a eu plus de demandes que d'offres.
Eh ben.
Mais ça ne reviendra pas en 2022 parce que le moteur L4 n'est plus conforme aux normes environnementales pour 2022.
Okay.
On va continuer de faire des moteurs performants. D'ailleurs, Dodge le dit, Chrysler, là, le Stellantis, là, on ne sait plus comment ils appellent après
groupe.
Un bout de temps.
Ouais.
Mais en passant par l'hybridation. Fait que probablement qu'on va encore avoir des 700 chevaux quelque part. Mais le 700 chevaux brut et méchant...
Un L4 électrique.
C'est la dernière génération. Alors, c'est tout. On vous revient la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Merci d'avoir été là, Alain. On va vous parler d'encore plein de modèles, plein de nouvelles. Soyez prudents sur la route. On vous revient la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Bye-bye.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C23.